Chapitre 24. Le dieu Mars dit un jour au Haine le Martien : Mon père Jupiter m'envoie vous donner le secret de l'immortalité. Ce secret permettra d'éloigner le semeur de vide. Mais si vous l'égarez, le semeur surgira du néant pour vous jeter dans les abysses de l'oubli. Quel est le secret ? Demandèrent les Haines le Martien. Il est simple. N'oubliez jamais d'adorer le Dieu qui dort en vous. Mars s'en retourna dans son royaume. Les hommes de Haines le Mars ne comprirent pas ces paroles, et ils se hâtèrent de les oublier. Les prêtres leur présentèrent de nouveaux dieux, de nouvelles idoles, à qui ils vouèrent des cultes fanatiques. Ils commencèrent à se diviser, à s'entretuer, et la terre de la planète se gorgea tellement de sang qu'elle en devint éternellement rouge. Leurs cris de terreur et de haine réveillèrent le semeur de vide, qui dormait dans les abysses. Il se leva, prit une apparence d'homme et s'en vint sur le Haine Mars. Lorsqu'ils l'aperçurent, les hommes épouvantés se rappelèrent les paroles du dieu Mars. Ils tentèrent d'exhumer le dieu qui dormait en eux, mais ce fut trop tard. Le semeur de vide les anéantit et leur monde fut projeté à jamais dans la faille abyssale. Cette histoire te fait peur, ô toi qui me prêtes une oreille attentive. Aime ton Dieu intérieur et va sans crainte. Légende de Haine le Mars, recueillie de la communauté Haine le Martienne de la planète Allemagne. Traduction de Messaoudine Joupiette. Le plan comportait une dixième étape, non prévue par les maîtres germains. L'incréé s'était joué de l'hyponériarca. Il n'effaçait pas la création humaine pour qu'elle fût remplacée par la création des skaïtes. Les cartes mères avaient abusé les conglomérats de la cuve. Elles avaient toujours été informées de la neuvième étape du plan, et sur les impulsions de l'incréé, en avaient préparé une dixième. Elles savaient, en exécutant ses ordres, qu'elles condamneraient les germes à l'anéantissement. Mais elles n'en avaient cure. Elles n'avaient aucune attache avec le produit de leur activité. Elles ne les appréciaient pas comme leur descendance, seulement comme des embranchements nouveaux, des multiplications de probabilités. De même, elles avaient considéré la dissolution des enveloppes matérielles des skaïtes, la récupération de leurs germes, le regroupement général à l'intérieur du corps reconstitué de Tixuoti, renforcé des composants des robots et du Xaxas, comme de nouvelles et intéressantes possibilités. Elles étaient présentes dans ce que les maîtres germes avaient baptisé le cheval de Troie. Certaines données historiques penchaient pour l'orthographe Troie, T-R-O-I-E. Elles avaient transféré toutes leurs données dans un programme autonome que, sans s'en rendre compte, l'hyponériarca avait lui-même implanté dans le cerveau de Tixuoti. Un monde passionnant, le cerveau humain, d'une complexité, d'une richesse fascinante. Le programme autonome s'était déclenché au moment prévu. Les cartes mères avaient investi les neurones, les méninges, les lobes, le cortex, les glandes, et de là, grâce à l'armée des germes de cohésion, avaient commencé à modifier certaines données des maîtres germes disséminées dans les autres parties du corps de l'orangien. Le contact prolongé avec les humains avait perturbé leurs aiguillages, et elles y avaient remis bon ordre, reconditionnant les conglomérats en exécutant infaillible de leur volonté. L'incréé avait d'ailleurs exploité cette attirance des skaïtes pour la tension créatrice afin de concevoir et façonner son arme absolue. Grâce au relais des cartes mères, sa toute-puissance immatérielle était renfermée dans une carapace invincible, indestructible. Il possédait maintenant un semeur de vide, un soldat qui lui obéissait au doigt et à l'œil. Les maîtres germes étaient parvenus à fragmenter l'esprit de Tixuoti, à le maintenir coupé de sa source, coupé de la vibration chaleureuse, et les cartes mères avaient donné la touche finale à leur œuvre. L'incréé pouvait à présent agir directement dans le champ de la création. Grâce aux déromates intégrés, l'équivalent pour les cartes mères du voyage sur la pensée chez les humains sources, il pouvait se déplacer instantanément d'un monde à l'autre. Les maîtres germes, dans leur volonté d'autonomie créatrice, s'étaient arrangés pour attirer un humain source dans la cuve. Cet humain avait été Tixuoti, mais, dans la logique de probabilité, il aurait dû être le Madhishari des Imlias. Prévenu par les cartes mères, l'incréé avait immédiatement vu tout le parti qu'il y avait à tirer de cette présence. Puisqu'il n'avait pas réussi à neutraliser les autres guerriers du silence, des équivalents des anciens maîtres de la science indique, il se servirait de Tixuoti pour pénétrer avec eux dans les annales indiques. Et, une fois qu'il serait introduit dans le dernier bastion de l'humanité, il libérerait toute sa puissance destructrice pour pousser les hommes dans le néant d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Des bribes de conscience traversaient parfois le désert intérieur de Tixu. Des réminiscences d'existence humaine, incohérentes. Les cartes mères veillaient attentivement à ce qu'ils ne retrouvent pas la cohésion, même morcelée, même fragmentaire, de son esprit. Un visage blême, pétrifié, repose sur un oreille blanc. Maman. Il sortit de la cuve de reconstitution et entama sans attendre son voyage vers le monde du centre, mal nommé parce qu'il se situait sur un bras spiral de la Voie lactée. Le noyau de la galaxie, la clé de voûte du système, n'était plus qu'un gigantesque trou noir qui grossissait rapidement, qui avalait les étoiles par millions. Il abandonna derrière lui les cuves, les liquides matriciels, le cimetière de vaisseaux, tous ces composants nés du génie humain. Il n'y avait guère que la structure de Xaxas qui fut étrangère à l'homme, et qui se retournerait bientôt contre lui. De bon déromate en bon déromate, il lui fallut environ 6 jours standards pour atteindre le premier monde des marches. Un voile sombre se tendit tout à coup devant Altéir et Al-Shaïn, les deux astres diurnes de la planète Haine-le-Mars, et la nuit se fit en plein jour. Les citadins de Haine-le-Athéna se répandirent dans les rues, sur les places, et observèrent ce phénomène d'un air à la fois intrigué et inquiet. Leur planète, la 7e planète tellurique du système Altéir, une étoile de la constellation de l'Aigle, avait été le point de départ des grandes vagues d'émigration après la Grande Guerre des Pensées. Les Haine-le-Martiens se considéraient comme le peuple le plus ancien des mondes des marches et du centre, et ils concevaient un certain orgueil de cette antériorité historique. Ils racontaient à qui voulait les entendre, ils étaient de moins en moins nombreux, que les premiers colons terrestres avaient baptisé leur planète Haine-le-Mars parce que sa couleur rouge et sa sécheresse leur avaient rappelé une planète tellurique du système solaire dénommée Mars. Selon des linguistes émérites, Haine-le-Mars était une contraction de Nouvelle Mars. Ils omettaient toutefois de préciser que ce monde dont ils étaient si fiers n'avait pas toujours été accueillant. Les colons avaient dû le terraformer avant de l'habiter, et ils avaient attendu plus de 50 années standard dans leur vaisseau avant de se poser. Bien qu'elle disposât d'une atmosphère respirable depuis 80 siècles, il y faisait une chaleur épouvantable en dehors des pôles, et les Haine-le-Martiens passaient un tiers de leur existence à combattre les effets de la sécheresse, un tiers à se reposer à l'ombre et un tiers à dormir. Les bâtiments de la cité se vêtaient d'une teinte rouge, qui devenait insupportable à force d'être omniprésente. Encore heureux que quelques rares variétés d'arbres aient daigné pousser sur ce sol volcanique, et offrir des perspectives vertes, jaunes, brunes et grises reposantes pour l'œil. Après la disparition des Skaïtes d'Hyponéros et les terribles représailles à l'encontre des Kreutziens, La population ennemarsienne se satisfaisait volontiers de ces dieux traditionnels, premiers arrivés dans le panthéon des étoiles. Cette éclipse imprévue, non annoncée en tout cas, était le deuxième événement de la semaine qui réussit à jeter les résidents de Enlil-Athéna dans les rues au plus fort de la canicule. Des bruits alarmistes se répandaient comme les poussières, rouges évidemment, balayées par les vents tourbillonnants, chauds bien entendu, de l'hémisphère sud. Les Creusiens et leur arsenal répressif des croix de feu n'avaient pas réussi à éradiquer les vieilles légendes planétaires, et elles ressurgissaient pour pallier la défaillance des scientifiques, incapables de donner une explication rationnelle, rassurante, à cette bizarrerie climatique. Le semeur de vide est revenu, il nous dispersera à jamais dans le néant. Ça et là, des esprits sensés affirmaient que ce n'était pas la première fois qu'une double éclipse occultait la lumière du jour, qu'elle était probablement due à un passage important de météorites et que tout rentrerait bientôt dans l'ordre. D'autres, les convertis, profitaient de la situation pour clamer leur foi à la face de leur complanétaire, chantaient les louanges du Kreutz, voyaient dans cette nuit soudaine sa divine intervention, promettaient les pires châtiments à ceux qui avaient crucifié les missionnaires sur des rochers exposés aux rayons ardents d'Altéir et d'Alchaïn. D'autres enfin penchaient pour l'hypothèse d'un retour des skites d'Hyponéros, et ceux-là, on refusait de les croire tant cette supposition soulevait d'inquiétude. Ils ne firent pas la relation entre l'éclipse et l'homme entièrement nu qui se tenait immobile, comme pétrifié, au centre de la plus grande place de Enlil-Athéna. Bien que les femmes le trouvent beau, ténébreux, étrangement attirant, on se moqua de lui, puis lorsque les badauds en eurent assez de le contempler, ils décidèrent qu'ils étaient outrés par l'impudeur de cet étranger et prévinrent les forces de l'ordre local, ceux-là même qui avaient crucifié les missionnaires et qui, depuis lors, s'était proclamé force de l'ordre ou gardien de la souveraineté enlemarsienne. Ces derniers écartèrent la foule, se déployèrent autour de l'individu, braquèrent sur lui leur brûlante raille, la version la plus antique des ondes morts, et le prièrent de se rhabiller. Ils lui avaient volontairement donné un ordre qu'il ne pouvait pas exécuter, car il n'avait visiblement aucun vêtement à sa portée. Ils voulaient uniquement jouir de la supériorité que leur conférait leur pétoire lumineuse et le statut de gardien de la souveraineté. Ils avaient subi pendant plus de 18 années locales le joug creusien. Les mercenaires de Prithiv avaient violé leurs femmes sous leurs yeux, réquisitionné leurs demeures, pillé leurs boutiques sans débourser une unité standard, sans conteste le crime le plus odieux. Et il ne perdait pas une occasion de démontrer qu'ils pouvaient être aussi doués pour la cruauté que leurs anciens bourreaux. Et donc ils violaient les femmes autres que les leurs, torturaient les hommes qui leur résistaient, réquisitionnaient les plus belles demeures et dévalisaient les boutiques avec une constance, une ardeur digne d'éloge, de sorte que de nombreux Enlil-Martiens en étaient arrivés à regretter la barbarie des sbires de Langempire. L'esprit outrancièrement complanétaire s'accommode mieux de haïr les tortionnaires étrangers. Quant à l'intrus qui s'exhibait sans la moindre pudeur devant les femmes et les enfants, il allait voir de quel bois se chauffaient les maîtres de Enlil-Mars. La peau de cet homme était parcourue d'étranges éclats gris-noirs qui évoquaient les fuselages des carcasses des vaisseaux originels exposés au musée de la préhistoire spatiale. Son immobilité avait quelque chose de robotique, d'inquiétant. La température baissa tout à coup de plusieurs dizaines de degrés. Le froid, inhabituel sur Enlil-Mars, accentua la nervosité des forces de l'ordre, dont l'officier était reconnaissable à son air important et à sa brassière verte.
« La loi Enlil-Martienne interdit la nudité publique, sieur. Veuillez vous rhabiller. »
glapit l'officier en gonflant le torse. Les yeux de l'étranger se posèrent lentement sur lui, dépourvus de la moindre expression. Il brillait d'un éclat vert, métallique.
« Pour la deuxième et dernière fois, veuillez respecter la loi Enlil-Martienne et vous rhabiller, sieur.
insista l'officier.
« Procurez-moi des vêtements si vous voulez que je m'habille, » répliqua l'homme.
Sa voix semblait sortir d'un gouffre sans fond.
« Nous ne sommes pas chargés de fournir l'habillement aux étrangers, sieur, seulement de faire respecter l'ordre. »
« Votre uniforme fera parfaitement l'affaire, » dit l'homme en s'avançant d'un pas.
« Feu !»
rugit l'officier. Les brûlentrailles vomirent tous en même temps leurs ondes blanches et rectilignes. Elles touchèrent leur cible. À cette distance, il eût été des plus difficiles de la rater, mais n'abandonnèrent aucune trace sur sa peau. Ils avaient l'impression de tirer sur un mur, et encore, ils auraient discerné des points d'impact sur une surface pierreuse ou métallique. Un sourire sardonique fleurit sur les lèvres de l'homme. Il continua de s'avancer vers l'officier, qui se mit à trembler de peur et de froid. Il se rendait soudain compte qu'il se retrouvait face au semeur de vide, à l'être invincible et mystérieux des légendes haine-le-martienne, à la créature immonde qui surgissait des profondeurs abyssales pour anéantir leur planète. Il n'esquissa aucun geste de défense lorsque le monstre le saisit par la gorge et, du pouce et de l'index, lui broya le pharynx. Ensuite, tandis que les autres épouvantés continuaient de le bombarder de rayons étincelants, avec tant de nervosité qu'il ne se rendait pas compte qu'il touchait également leur chef, il lui arracha sa veste, son pantalon, jeta son cadavre sur la foule et enfila ses vêtements. Il avait accompli cette succession de gestes sans émotion, sans crispation, sans effort apparent.
« Bordel de Dieu !»
gémit un membre des forces de l'ordre.
« C'est un putain d'androïde !»
Il lâcha son arme et se recula dans la foule. Ses collègues l'imitèrent, conscients qu'il n'aurait aucune chance d'abattre la terrifiante créature. Ils renonçaient tout à coup à leurs prérogatives. Ils abdiquaient de ce pouvoir qu'ils venaient tout juste de conquérir. La nuit était de plus en plus noire et le froid de plus en plus virulent. Une atmosphère d'apocalypse recouvrait la cité. Elle semblait se dissocier du reste de la planète, s'enfoncer dans d'insondables abysses. Les badauds avaient l'impression que le sol s'affaissait sous leurs pieds, que la terre, le béton, les rues, les ponts, les immeubles, les maisons, toutes ces constructions dont ils avaient recouvert leur croûte planétaire, se laminaient, s'effritaient, se dissolvaient. L'incréé ne prenait aucun plaisir à effacer cette planète et ses habitants. Il ne prenait aucun plaisir à ce qu'il faisait en général. Il décréait parce que, depuis toujours, il lui appartenait d'abolir la tension créatrice. Il n'avait aucune intention irratype, égotype, et d'ailleurs, il n'existait lui-même que parce qu'il était un revers, un prédateur inlassable des non-désirs, de la non-chaleur. Un semeur de vide. On lui avait donné d'innombrables noms. On lui dédiait d'innombrables cultes. Il se dissimulait dans la bouche des faux prophètes. Il se cachait dans les rêves des tyrans. Il se glissait dans l'arme du soldat. Il s'infiltrait dans les haines et dans les peurs. Il était le baromètre de l'humanité, son épée de Damoclès, son non-reflet d'elle-même. Les ondes, la chaleur, les formes, la matière, toutes ces expressions de la tension créatrice engendraient une résistance en lui, une volonté toujours déployée de couper les hommes de leur source. Il s'anéantirait lui-même en effaçant l'humanité car, privé d'opposition, il n'aurait plus de raison d'être. Il n'aurait pas effacé les hommes d'ailleurs, ils se seraient effacés eux-mêmes. Il était le gardien vigilant de leur insuffisance, le témoin neutre et implacable de leurs pensées, un peu comme ces liquides ou ces gaz qui s'engouffraient dans les interstices de la matière. D'une volatilité suprême, il comblait les failles de l'esprit humain. En conquérant les espaces, il éloignait les créateurs de leur source. Ces gens qui fuyaient devant son soldat, devant son cheval de Troie, ne se rendaient pas compte qu'ils avaient en eux les ressources de le vaincre. Seuls les guerriers du silence pouvaient encore lui faire obstacle, l'obligeait à reculer devant la lumière. Mais cela, il comptait bien les dominer dans les annales indiques. En triomphant de ses ultimes adversaires, il ferait taire le cœur vibrant de la création. Il arrêterait l'expansion infinie de l'univers. Des yeux bleus, verts et or, une chevelure blonde, moi. Les germes de cohésion, les agents des cartes mères au sein de l'hyponériarcat, s'étaient chargés de neutraliser la mémoire profonde de leur hôte. C'était de cette dernière, de ces données permanentes, de ces implants structurels qu'il convenait de se méfier. Elle était désormais le seul lien de l'orangien avec son individualité, avec son ego, avec son sentiment d'exister par lui-même. Les germes de cohésion l'avaient donc occupé ou, plus exactement, s'étaient placés de manière à en garder jalousement les accès. Quant aux anciens conglomérats de la cuve, ils avaient réintégré leurs conditions d'aiguillage, d'embranchement, de probabilité. Au moment du déclenchement du programme autonome, les germes de cohésion avaient supprimé leur mémoire conjecturelle fluctuante. Le plan avait été aboli, principalement la neuvième étape, et désormais seules étaient activées les fonctions nécessaires à l'accomplissement de l'incréé. Les astronomes disséminés sur les mondes du centre, qui surveillaient les mouvements des corps célestes, ne trouvèrent aucune explication plausible à la disparition soudaine de Haine-le-Mars, septième planète tellurique du système d'Altéir. Ils organisèrent un colloque extraordinaire dans les locaux de l'Académie impériale des sciences et techniques, elle n'avait pas encore eu le temps de changer de nom, et se rendirent à Vénitia par l'intermédiaire des nouvelles agences de transfert qui fleurissait dans toutes les villes de l'univers connu. La CILT, la compagnie de transfert la plus importante, tremblait depuis quelques jours pour son monopole. De nombreuses théories furent échafaudées. On parla d'abord d'une explosion, mais cette hypothèse tomba d'elle-même dans la mesure où aucune lueur n'avait précédé le phénomène. On pencha alors pour une implosion, pour une sorte d'effondrement de la planète sur elle-même, puis pour une subite dématérialisation, un peu comme si Haine-le-Mars avait été prise dans le rayon d'un déromate géant, et on espéra localiser la planète à un autre endroit de l'espace, même si cet espoir n'était guère réaliste. Enfin, quelques voix s'élevèrent pour faire le rapprochement entre la disparition de la planète Haine-le-Mars et l'étrange dissolution des Skaïtes. Elles en conclurent qu'Hyponéros était le deuxième nom, le nom occulte de Haine-le-Mars, et que se trouvait enfin dévoilé le mystère de l'origine des Skaïtes. On objecta que la population Haine-le-Martienne possédait des caractéristiques physiques humaines et que, bien qu'elle fût très ancienne et que l'épouvantable climat de la planète eût probablement causé d'importantes mutations génétiques, rien ne permettait d'affirmer qu'elle eût engendré des créatures aussi ouvertement inhumaines. Comme l'Angampire s'était effondré aussi rapidement et facilement qu'un château de cartes, et qu'il ne restait rien de l'ancienne confédération de Naflin, il n'existait aucune instance interplanétaire habilitée à décider de la suite à donner à cette catastrophe. Mais y avait-il une suite à donner à une tragédie qui avait englouti des milliards d'êtres humains ou assimilés? Et l'affaire resta en l'état. L'idée prédominante, celle qui s'imposa à la mémoire collective humaine, fut que les Haine-le-Martiens avaient joué avec des forces qu'ils n'avaient pas maîtrisées. Le rapport final du colloque ne démentit pas formellement l'idée d'un pacte secret de Haine-le-Mars avec l'Hyponéros et laissa la porte ouverte à toutes les conclusions, y compris les plus folles, les plus délirantes. Les travaux de l'Auguste Académie trouvèrent des prolongements inattendus sur Syracusa, dans la mesure où une frange de l'aristocratie vénitienne retira son soutien à la famille Mars. Ce qui n'était qu'une coïncidence phonétique se transforma tout à coup en un handicap rédhibitoire. Certains courtisans sautèrent sur l'occasion pour contester l'accession de Miaïde de Mars au trône syracusain. La soudaine déliquescence de l'Empire l'avait contrainte à réviser ses ambitions à la baisse. Et pousser leurs propres pions sur l'échiquier du pouvoir. Les factions, les alliances, les intrigues, les empoisonnements, les attentats se multiplièrent dans les couloirs des palais impériales, épiscopales et seigneuriales. Guntry de Mars perdit la vie dans l'explosion de son personnaire, et sa fille Irkaïte, ancien agent de renseignement auprès de Menati Imperator, fut retrouvée égorgée près de l'arc de Bella Syracusa. Mihaït eut l'intelligence de négocier un accord avec l'ancienne garde pourpre et les nombreux mercenaires qui, ayant déserté le Prytive, étaient restés à Syracusa. Elle fut publiquement couronnée en l'an 1 de la première période post-Angampire. Elle eut également la sagesse, une suggestion des microstases, de ne pas s'encombrer du titre d'impératrice, mais de choisir le nom de Dame It, précaution qui n'empêcha pas les courtisans vaincus, présents à la cérémonie, et de projeter de la renverser à la première occasion. Elle reçut l'adoubement de l'église du Kreutz sur la scène de la grande salle des assemblées, à l'endroit même où Menati Imperator s'était donné la mort. Les cardinaux réunis en conclave, une centaine d'entre eux manquaient à l'appel, massacrés par les populations qui n'avaient jamais autant mérité leur qualification de paritole. N'étaient pas encore parvenus à élire un successeur au moufti barophile le 24e. Ils avaient décidé, avec une belle unanimité, de ne pas graver en lettres de feu le nom de Barophile le 25e sur le tableau d'honneur du palais épiscopal. L'Église s'était hâtée d'effacer jusqu'au souvenir du marquis Natol dont, par ailleurs, le corps n'avait jamais été retrouvé dans les décombres du bâtiment. Les candidats au trône pontifical s'étaient dérobés l'un après l'autre, attendant le retour de jours meilleurs pour se dresser dans la lumière et la gloire du Kreutz. Et les cardinaux des grandes familles, appuyés par le haut vicariat, en étaient réduits à user de leur influence pour essayer de soudoyer les prélats d'extraction mineure qui présentaient le double avantage d'être syracusains et de manquer totalement d'envergure. On n'avait pas besoin d'un moufti visionnaire pour ramasser les débris de l'Église, mais d'un homme qui prit sur lui la responsabilité de l'échec et qui ne fut pas regardant sur la trace qu'il laisserait dans l'histoire. Il devrait en outre accepter de recevoir seulement la crosse de berger et la tiare, car le corindon Julien, l'anneau remis par le Kreutz au premier de la lignée, Alginzir, le symbole le plus évident de la légitimité moufiale, avait disparu avec le marquis Natol. Quel postulant serait assez fou, assez inconscient, ou assez stupide pour se résoudre à devenir un souverain pontife au rabais. Dame It n'eut donc pas l'honneur d'être sacrée par un moufti, mais par une délégation de cardinaux et de vicaires, lesquels ne s'étaient pas bousculés pour avoir l'honneur et le privilège d'assister à la cérémonie. Cependant, ecclésiastiques et courtisans avaient un contrôle suffisant de l'autopsyché-défense pour dissimuler leurs ressentiments. Ils s'astreignirent à faire bonne figure durant les longues heures du couronnement, d'autant qu'il y avait peut-être des prébendes ou des postes honorifiques à glaner dans l'affaire, et que les inimitiés d'hier pouvaient aisément se transformer en fondement d'une future et franche collaboration. Il suffisait d'y mettre le prix. Bien peu nombreux furent les Syracusains concernés par la retransmission intégrale de l'HP, l'holovision planétaire. L'accession au pouvoir de cette vieille femme laide et nanifiée par les microstases leur rappelait la déchéance brutale de leur planète. Au temps de la Confédération de Naflin, Syracusa avait été la reine des arts, des modes et du goût, la lumière qui brillait dans l'espace et faisait l'admiration des paritoles. Elle avait dominé l'univers pendant les 20 années de l'Angampire. Et même si cette hégémonie n'avait été rendue possible que par l'alliance avec les Skaïts d'Hyponeros, des créatures non humaines, elle avait empli de fierté le cœur de ses habitants. Le départ des Skaïts les avait réjouis pour le surcroît de liberté qu'il leur avait procuré, mais maintenant qu'ils prenaient conscience de toutes les conséquences qu'entraînait cette défection, ils en arrivaient à la regretter. Ils avaient l'impression que Syracusa s'enfonçait lentement dans une interminable nuit, que ses lumières s'éteignaient peu à peu comme les bulles sensitives à la fin d'une fête, et ce n'était pas Dame It, ce miroir étriqué dans lequel ils n'avaient pas envie de se contempler, qui les rallumerait de sitôt. Les 11 membres du Dewa Indic maîtrisaient à présent le voyage sur la pensée, et ils se transféraient aisément sur les différents continents de Terra Mater que Gus obstinait à appeler la Terre. Elle s'était parfaitement remise de son insolation, mais, chaque jour, Fraciste traçait les graphèmes indiques sur son corps dans le but, disait-il, de renforcer ses défenses immunitaires. Gueux le soupçonnait en réalité de saisir tous les prétextes pour s'isoler en sa compagnie, et elle l'encourageait discrètement dans cette voie. Les esquisses des symboles se transformaient le plus souvent en caresses appuyées, et même si elle ne s'était pas encore donnée à lui, elle s'ouvrait peu à peu. Elle se préparait à le recevoir. Son crâne commençait à se recouvrir d'un duvet soyeux, signe que son métabolisme s'adaptait progressivement aux conditions terrestres. Lorsqu'elle était arrivée au village des pèlerins, après avoir été initiée à l'antra, elle s'était familiarisée en 3 heures avec le transfert instantané, une pratique qu'elle assimilait au transcrypto. Elle avait été fascinée par les chevelures dorées et ondulées d'Afikit et de Yel, lisses, brillantes et noires d'Oniki et de Phénix. Elle avait instantanément regretté de ne pas être pourvue de cette somptueuse parure et avait aussitôt cherché dans les yeux de Fraciste un reflet de sa propre beauté. Les cheveux, encore fins et clairsemés, qui lui poussaient sur le crâne, montraient qu'elle aurait bientôt comblé ce qu'elle considérait comme une lacune. L'accueil chaleureux que lui avaient réservé ses 10 compagnons lui avait réchauffé le cœur, lui avait permis de surmonter son sentiment de solitude et de tristesse. Il l'avait prié de raconter l'histoire de l'Elguazer, et elle s'était exécutée avec d'autant plus d'empressement que les mots la soulageaient, la lavaient de la boue de son âme. Elle n'avait occulté aucun détail, même les plus sordides, même les plus crus, car les enfants qui faisaient partie de son auditoire, Yel et Taoufraïm, on pouvait inclure Jek dans le lot, bien qu'il fût entré dans l'adolescence, semblaient encore plus graves, réfléchis et compréhensifs que les adultes. Elle se transportait avec Fraciste en différents endroits de la Terre et découvrait avec ravissement les merveilles de la planète des origines, les plages de sable fin, les vagues grondantes des océans, les montagnes enneigées, les pôles recouverts de glace, les dunes ondulantes des étendues d'herbe, les forêts profondes, les déserts tourmentés. Cette petite sphère bleue perdue sur un bras de la Voie lactée présentait une variété infinie de paysages, de couleurs, de lumières, d'ambiances. Sa beauté n'étonnait pas seulement Gueux, mais également Fraciste et les autres compagnons du Dewa. Ils ramenaient divers objets de leurs explorations, des coquillages, des morceaux de roches, des fleurs, des fruits, et se racontaient le soir leurs impressions autour du buisson du fou. C'est dans les ruines recouvertes d'herbes folles d'une ancienne cité, une autre preuve de l'origine terrestre des peuples des étoiles, que s'aimèrent pour la première fois Fraciste et Gueux. L'endroit les avait inspirés parce qu'ils dominaient l'océan et que le soleil l'inondait d'une douce tiédeur. Le vent du large et le grondement des vagues emportèrent leurs soupirs. Fraciste n'éprouva aucun remords d'avoir rompu ses vœux de chasteté, mais, après l'assouvissement des sens, il posa la tête sur la poitrine de Gueux et pleura comme un enfant. Elle lui caressa tendrement les cheveux. Elle ne versait pas de larmes, pas encore, mais elle était en paix avec elle-même. Yel se proclama d'autorité protectrice, gouvernante et instructrice du petit Taoufraïm. Elle décida donc de lui apprendre le langage des hommes. Les premiers temps furent difficiles car il tirait sans cesse la langue et émettait des sifflements stridents qui traduisaient à la fois son agacement et son attachement aux coutumes ophidiennes. Parfois, lorsqu'il la voyait arriver, il disparaissait dans les buissons avec une telle vivacité qu'elle n'avait aucune chance de le reprendre. Mais, de nature obstinée, elle attendait patiemment son heure. La faim le faisait immanquablement sortir de son refuge, et elle exerçait alors un chantage à la nourriture pour parvenir à ses fins. La méthode était discutable, mais efficace. Taoufrahim parlait de plus en plus et sifflait de moins en moins. De temps à autre, cependant, il s'en allait rendre visite aux serpents qui avaient creusé leur nid long loin du village et passait un après-midi en leur compagnie. Oniki se sentait bien sur Terra Mater. Les amis de son prince se montraient prévenants avec elle, surtout Afikit qui l'avait prise sous son aile comme Yel tentait de maintenir Taoufrahim sous la sienne. Aucun bouclier n'occultait le ciel. La lumière tombait en abondance. La température était agréable. L'hiver, il fait froid, avait cependant précisé Afikit. L'abondance et la variété de la végétation offraient un cadre agréable, mais elle ressentait la nostalgie des cimes coralliennes, le sifflement du vent dans les tuyaux des grandes orgues, les rayons caressants de Xatimou et Taouxir, l'odeur de sel de l'océan Guigène. Tout cela lui manquait, comme lui manquait la sensualité du contact de la peau avec le corail, le silence profond du hautain. Elle s'en voulait de cette mélancolie car son rêve le plus cher, la vie aux côtés de son prince, s'était réalisé et elle ne s'estimait pas en droit de se plaindre. Les cicatrices s'étaient pratiquement estompées sur son visage et sur son flanc droit. Parfois, pendant que Yel s'occupait de Taoufrahim, Chari prenait la main de Niki, fermait les yeux et elle se laissait aller avec lui au voyage sur la pensée. L'antra résonnait en elle comme un chant de tutal, comme un appel permanent des frênes. Elle humait alors une odeur familière, ouvrait les yeux, se rendait compte que son prince l'avait transporté sur le toit du bouclier corallien de son monde natal, et elle ne l'en aimait que davantage. San Francisco et Phoenix avaient jeté leur dévolu sur une banquise du pôle Nord. À l'aide d'une pelle et d'une pioche récupérées dans le village des pèlerins, ils avaient creusé une profonde excavation à l'intérieur de laquelle ils tentaient de reconstituer à leur échelle le monde disparu de Jérusalem. Il leur arrivait parfois de dormir dans leur résidence de glace et de ne regagner leur maison du village qu'au petit matin. A posteriori, le mot sacré de l'Abinélian leur apparaissait comme un pâle reflet de l'antra. Le pouvoir d'invisibilité comme un voyage psychokinétique inachevé et la civilisation abinique comme un terrible gâchis. Ils se promenaient pendant des heures sur l'étendue glacée, admirant les flamboyantes empourprées du soleil couchant, la pâleur céruse du clair de lune, la clarté rosissante de l'aube. Bien qu'ils fussent vêtus de tenues légères de coton ou de laine et chaussés de simples sandales, ils ne souffraient pas du froid. De temps à autre, ils apercevaient des animaux à fourrure blanche qui leur rappelaient les oursigres sauvages de Jérusalem. Ils parlaient très peu. Ils n'avaient jamais eu besoin de mots pour jouir l'un de l'autre. Wu résista de toutes ses forces à l'envie dévorante de rendre une visite à Katiai, Lima des Abras. Il craignait de n'avoir ni la volonté ni le courage de revenir affronter l'ultime adversaire des hommes s'il s'étourdissait dans les bras de son aimé. Il lui fallait d'abord accomplir la mission dont elle l'avait chargé. Il se cantonnait donc à visiter la terre des origines. Lorsqu'un endroit lui plaisait vraiment, il s'asseyait en position de veille quiète et restait immergé dans le lac d'Uxui pendant un temps qu'il aurait été incapable d'évaluer. L'antra, qui vibrait en sourdine dans son esprit, renforçait la qualité de son silence. Il ne le déposait pas seulement au carrefour d'où partaient les couloirs éthériques, il l'entraînait dans des régions profondes de son âme, où se mêlaient le présent, le passé et le futur. Il percevait des bribes d'existence des peuples qui avaient vécu à l'endroit où il était assis, des villes gigantesques et surpeuplées, des véhicules grondants, des guerres, des pillages, des palabres sous un arbre, des étals colorés, des danses rituelles. Ça et là, des hommes et des femmes à la peau noire, blanche ou ocre, s'étaient aimés, s'étaient haïs avec une rage et une force telles que la matière en était à jamais meurtrie. Il entrevoyait des visages, des expressions d'épouvante, de joie, des bouches riantes, tordues de fureur. Il revoyait le monastère Apsurat, les tours coiffées de dômes verdâtres, les clochers, les flèches, le chemin de ronde, le parapet criblé de meurtrières, la tache grise de l'océan des fées d'Albar, les mouettes jaunes, les fous à crête d'argent, les toits rouges de la ville de Watt. Il entrait dans le donjon des Madis, cherchait le Madi Secoram, apercevait le trille holographique du plafond, rencontrait les quatre sages du collège et le responsable du bureau de pureté, comprenait qu'ils avaient assassiné le grand maître de l'ordre. Par cet acte, il n'avait laissé aucune chance à l'armée Apsurat de vaincre les Skaïtes d'Hipponéros à la bataille de Watt, et Wu s'estimait délivré du poids de sa culpabilité. Ce forban de Jankol Nanufa avait eu raison. Le destin avait bien fait les choses en l'empêchant de se rendre sur Selbdik 20 ans plus tôt. Il serait le représentant de l'enseignement Apsurat lors de l'affrontement décisif contre l'Hipponéros. Si le Xui l'épargnait et si le Madishari lui en donnait la permission, l'éducation levantine avait développé chez Wu Fanli un sens exacerbé de la hiérarchie. Il fonderait un nouvel ordre basé sur la connaissance indique de l'antra. Le cri de mort redeviendrait un son de vie. Il perdait toute notion d'espace et de temps, goutte humaine diluée dans l'océan d'infini. Jack avait commis l'erreur de retourner sur Udgen pour revoir Pa et Manhatskin. Il avait été surpris de trouver des inconnus dans la maison familiale d'Otanjor. Il leur avait demandé ce qu'ils fabriquaient là et lui avait rétorqué qu'ils étaient chez eux et que c'était plutôt à lui de justifier son intrusion dans leur propriété. À la façon dont l'homme avait prononcé le mot « propriété », avec encore plus de gonflement dans la voix et dans le ventre que Pahatskin parlant dans son jardin, il semblait avoir une conscience très aiguë de sa position sociale.
« Et d'ailleurs, comment avez-vous fait pour franchir l'identificateur cellulaire sans être désintégré, jeune homme? Le vendeur m'a garanti qu'il était infaillible. »
« Tu t'es encore fait berner, Pagraville !»
s'était exclamée la femme d'un air furieux.
« En attendant, fichez le camp de notre propriété, jeune homme !»
avait grogné l'homme. Comme souvent chez les Utigéniens, et les Graville ne faisaient pas exception à la règle, Man était joli, élancé, et pas gros et laid. Par chance, il ne s'adonnait pas aux joies du col encore syracusain.
« Que sont devenus les anciens propriétaires ?» avait demandé Jack.
« En quoi est-ce que cela peut vous intéresser ?»
avait croassé Pagraville.
« Ils sont morts, » avait répondu la femme avec une grande douceur dans la voix, comme si elle pressentait que cet adolescent surgi de nulle part était quelqu'un de la famille.
« Mort ?»
avait bredouillé Jack. Il avait reçu un tel choc qu'il était resté pétrifié au milieu de la pièce, incapable de prononcer un mot, d'esquisser un geste. Leur maison a été mise en vente par l'église du Kreutz avant la révolution de Sambrius, avait ajouté Mangraville. Ils ont succombé à un effacement. Vous les connaissiez? Jack avait hoché lentement la tête.
Ils ont été brûlés au crématorium central,
intervint Pagraville.
Envolés, enfumés. On ne peut plus rien pour eux, alors fichez le camp.
Pagraville, la rabroua Mangraville. Ce que tu peux être sans cœur, tu ne vois pas que ce garçon a du chagrin?
S'il s'était montré aussi brutal, c'était davantage par calcul que par manque de subtilité. Il craignait que cet adolescent ne fût le neveu ou le cousin des anciens propriétaires. On ne leur connaissait pas d'enfants, et ne vint réclamer la maison pour son usage personnel. La transaction conclue avec les Kreutziens, avec les anciens représentants de l'autorité impériale sur Udgen, étaient peut-être caduques maintenant qu'ils avaient été évincés du pouvoir. Il ne tenait pas à ce qu'il y eût des remous autour de son titre de propriété, car la chasse aux collaborateurs de l'ancien régime était ouverte et un accord, même strictement commercial, avec les Kreutziens pouvait fort bien être assimilé à un acte de collaboration et valoir à son auteur les désagréments d'une pendaison publique.
et Jane avait renoué avec ses bonnes vieilles coutumes. Jack s'était mordu les lèvres pour ne pas défaillir. Puis il avait pris une longue inspiration, avait invoqué l'antra et s'était transféré sur Terra Mater, abandonnant Pa et Man Granville à leur morne turpitude. Il était désormais orphelin. Yel avait immédiatement remarqué sa pâleur, sa détresse, et était venu silencieusement l'étreindre. Le soir, autour du buisson du fou, il avait relaté la mort de ses parents d'une voix brisée de chagrin.
« Jake, Jake Atskin !» s'était soudain exclamé Francis Bogg. « Je n'avais jamais fait le rapprochement. Tu es ce garçon qui se trouvait dans le terrarium nord au moment où je l'ai fait gazer ?»
Jake avait acquiescé d'un mouvement de menton.
« Comment es-tu parvenu à échapper au gaz et au béton liquide ?»
Un vieux quarantain m'a prêté son masque à oxygène.
« Arthrarak ?» Le correspondant de la chevalerie Absurat, Horax, le Skaït Inquisiteur, surveillait en permanence son esprit. Nous t'avons cru mort et nous avons prévenu tes parents. Tu as fait deux victimes de plus,
avait soudain hurlé Jack en se levant et en pointant un doigt accusateur sur l'ancien moufti.
Ils se sont laissés effacer et ils en sont morts.
Il s'était enfui dans la nuit naissante. Raciste avait voulu le rattraper, mais Wu lui avait saisi le poignet. « Inutile, » avait dit le chevalier. « C'était leur choix, leur droit. Il comprendra plus tard. »
« Le bruit du blouf se rapproche, » affirma Yel. « Il sera bientôt là. »
Ils étaient tous les 11 réunis autour du buisson du fou. La nuit était tombée et la lumière des fleurs leur effleurait le visage. « Le temps est venu de former le Dewa, » dit Shari.
« C'est quoi un Dewa ?»
demanda Taoufraïm assis sur les genoux de son père. « Une entité indique, l'union de nos forces, un tout supérieur à la somme des parties. Nous nous entraînerons à former un être à 12 faces. »« 11, » corrigea Wu. « 11 pour l'instant, bientôt 12. » Mais le 12e cherchera à nous diviser. Il s'infiltrera dans nos failles, nous dressera les uns contre les autres, exaltera les haines, les peurs. C'est pourquoi nous devons abolir tout jugement les uns sur les autres. Quel que soit notre parcours, quelles que soient nos erreurs passées, quel que soit notre degré d'évolution, quelles que soient nos affinités, acceptons-nous pleinement, sans réserve. Nous tirons orgueil d'avoir été choisis pour appartenir aux Dewa, car l'orgueil induit un jugement. Afikit le regardait d'un air à la fois admiratif et ému. Il prenait en cet instant sa véritable stature de Mahdi. Elle se souvenait de lui lorsque Tixou et elle étaient arrivés sur Terra Mater, exténués par leurs incessantes recherches. Elle gardait à l'esprit l'image d'un petit garçon brun qui bondissait de rocher en rocher, qui se précipitait vers eux comme un cabri, qui les accueillait avec un enthousiasme communicatif. Elle était certaine que le fou des montagnes se montrerait fier de son disciple, un disciple qui avait parfois fait preuve d'une insouciance coupable, qui n'avait pas toujours saisi l'importance de son rôle, qui s'était condamné à chercher seul le sentier de l'arche. Elle pressentait également que Taoufraïm, ce fils qui lui ressemblait avec tant de fureur, serait le chaînon manquant de la lignée des gardiens des annales indiques. Encore leur fallait-il vaincre l'Hyponéros. Encore leur fallait-il affronter Tixou. Mais elle, aurait-elle la force de le combattre?
Comment procéderons-nous?
Demanda Francis Bogg. Nous allons d'abord effectuer des transferts ensemble, durant lesquels nous ne chercherons pas à prendre d'initiative individuelle, ni à émettre de désirs personnels. Nous nous laisserons seulement guider par la volonté de l'entité appelée Dewa.
Quand commencerons-nous?
Immédiatement. Ils s'installèrent en cercle autour du buisson. formèrent une chaîne humaine qui n'avait ni commencement ni fin, et invoquèrent l'antra. Le passage de la perception individuelle à la conscience des Wick engendra des peurs inconscientes qui les empêchèrent de réussir le transfert groupé. Certains étaient tellement identifiés à leur soi que le dépouillement de l'ego, cette sensation déstabilisante de ne plus être soi-même, mais de se fondre dans une entité tellement plus large qu'il n'en percevait plus les limites, engendrait un insupportable vertige. Ils avaient l'impression que leur âme, leur principe unique, ne leur serait jamais restitué, qu'ils n'auraient plus la capacité de ressentir par eux-mêmes, qu'ils ne recouvreraient jamais cette individualité à laquelle ils étaient tant attachés. Ils rejetèrent violemment la fusion, comme des rochers refusant d'être emportés par un torrent de lave, comme des gouttes de pluie révoltées à l'idée de se dissoudre dans une flaque d'eau. Une grande partie de la nuit leur fut nécessaire pour réaliser leur entreprise. La difficulté résistait dans le fait que les 11 membres du Dewa devaient parvenir dans le même temps au même degré d'acceptation pour que celui-ci possède une identité, une volonté propre. Lorsque l'un consentait enfin à lâcher les prises qui le maintenaient rivé à son égocentrisme, c'était l'autre qui secouait la tête en poussant des hurlements, comme s'il se roulait dans des braises ardentes, qui tentait de rompre la chaîne, de retirer sa main de celle du voisin ou de la voisine. Pour certains, comme pour Oniki, ce fut plus facile que pour d'autres. Elle consentait à se donner au Dewa comme elle avait consenti pendant 3 années à vivre dans la pensée de son prince. Elle ne s'était jamais identifiée à ses limites, ni pendant sa vie de tutale, où elle s'était consacrée corps et âme au nettoyage des grandes orgues, ni pendant son bannissement sur Psalion, où elle s'était dévouée à son fils et au souvenir de l'homme qu'elle avait choisi d'aimer. Il y eut de nombreuses crises de désespoir, de larmes, de colère, de révolte. Le Madhishari leur demandait l'impossible, le sacrifice suprême de leur essence. Et tant forte était leur haine que les torrents en devenaient presque palpables. Ils se rendaient compte que l'appartenance au Dewa indique, ce dernier carré de l'humanité, n'était pas une distinction vaguement honorifique. Le rôle de l'ego était de ramener les choses à lui, comme une étoile capture tous les corps célestes dans sa gravité. Mais une exigence terrifiante, une offrande suprême. Le chemin qui allait de la matière à la source, de la forme à l'informe, du fini à l'infini, était un chemin de libération douloureuse. À l'aube, la fatigue vint à leur rescousse. Exténués, fourbus, désespérés, ils capitulèrent, s'abandonnèrent à la vibration de l'antra. Il se fit tout à coup un grand silence, et les fleurs du buisson brillèrent d'un éclat intense. Ils furent subitement happés par un vortex céleste projeté dans l'infini. Alors, ils s'aperçurent que leur ivresse était multipliée par 100, par 1000, que leur unicité ne se perdait pas dans cet éblouissement, mais que, imprégnée de la richesse des autres, elle s'en trouvait renforcée. Dès lors, ils employèrent la plus grande partie de leur temps à s'exercer au voyage des Wick. Ils ne s'arrêtaient que pour prendre du repos ou sacrifier au rituel du repas quotidien qu'ils prenaient tous ensemble dans la maison d'Afikit et de Yel. Ils ne se retiraient dans leurs maisons respectives, ils avaient sommairement retapé les maisons les moins ruinées du village, que pour aller dormir, ou pour certains, reformer des unions des Wick un peu plus charnelles. Ils étaient à chaque fois étonnés de réinvestir leur individualité au sortir de leur transfert commun. Ils prenaient conscience que le chemin de l'infini au fini, de l'immatériel au matériel, comportait également sa part de souffrance. Ils se sentaient tout à coup à l'étroit, comme pris au piège, comme enfermés dans une enveloppe trop exiguë. Gênés aux entournures, maladroits, ils mettaient du temps à contrôler leurs mouvements et leur allure pataude arrachait des rires et des sifflements à Taoufraïm. Le contraste entre son petit corps et l'énergie que le jeune garçon déployait en toutes circonstances avait quelque chose de sidérant. Dernier couché, premier levé. Il était toujours partant pour une nouvelle expérience, pour un nouveau voyage, manifestait un appétit de connaissance que ses 10 compagnons réunis avaient du mal à combler. Il utilisait ses rares moments de loisir à jouer avec ses amis les serpents, dont il prétendait avoir répertorié plus de 100 espèces depuis qu'il était arrivé sur Terra Mater. Il vouait à Fikit une vénération particulière, proche de celle qu'un petit enfant peut porter à sa grand-mère. Elle était la seule du groupe dont il exécuta les ordres sans discuter ni rechigner, et Chari lui-même était souvent obligé d'en appeler à la médiation de Nayakit pour obtenir quelque chose de son fils.
« Quand irons-nous dans les annales ?» demanda Yel. « Jack m'en a tellement parlé que j'ai hâte de les voir. »«
Quand nous serons 12 », répondit Chari. Ce jour-là, alors que le soleil atteignait son zénith, la nuit se fit en plein jour. Avec l'obscurité, un froid glacial se déposa sur Terra Mater.
« Le Blouf arrive !»
cria Yel. Elle les avait prévenus la veille et ils s'étaient tenus prêts. Ils formèrent le cercle autour du buisson du fou, mais le laissèrent ouvert entre Afikit et Yel pour y inclure le visiteur. Puis ils invoquèrent l'antra et fermèrent les yeux. Ils n'eurent pas besoin de les rouvrir pour se rendre compte que le semeur de vide s'avançait vers eux. Le froid annonça sa venue en descendant de plusieurs dizaines de degrés et les ténèbres s'épaissirent. Afikit souleva légèrement les paupières et observa Tixou entre la trame ajourée de ses cils. Revêtu d'un costume lacéré, il posait tour à tour ses yeux sur chacun de ses 11 vis-à-vis. Leur éclat vert n'exprimait aucune émotion, aucune intention. « Des yeux de machine !» se dit-elle. Elle eut peur soudain. Le Dewa Endik se désagrégea subitement. Des pensées de haine et de terreur les submergèrent, et certains se hâtèrent de rompre le cercle. La femme, l'homme, le fils, la fille, le père, la mère qu'ils avaient tenue dans leurs bras quelques heures plus tôt, devinrent soudain un objet d'horreur et de répulsion.
« Vous connaissez maintenant ma puissance, »
dit Tixou d'une voix métallique, impersonnelle, en saisissant la main d'Afikit et de Yel.
« Femme, fille, »